Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Comment allez-vous? Bien, je l'espère. Ça va toujours bien quand on est sur Fréquence 7 parce qu'il y a de la bonne musique, des bonnes émissions. On se régale, on a la banane. Est-ce que vous savez qu'il y a des spectacles de contes tous les premiers vendredis du mois à Saint-Privat? Vous ne saviez pas? Eh bien, je vous le dis. Il y a des spectacles de contes, des arts de la parole, du clown, de la poésie, enfin plein de choses, tous les premiers vendredis du mois. Donc, si c'est bientôt le premier vendredi du mois, eh bien, vous écoutez Fréquence 7 qui vous dira que ce premier vendredi du mois, il y a un spectacle de contes à Saint-Privat, à la salle de la Lozière. Et vous venez voir ça. C'est des spectacles plutôt pour les adultes. On accepte parfois les enfants, ça dépend des spectacles, mais c'est plutôt pour adultes. C'est pas cher, c'est 7 euros l'entrée pour tout le monde. Et c'est toujours excellent. Et cette année, c'est vraiment tous des artistes qui viennent d'Ardèche ou là autour, quoi, enfin de la région. Donc ça va vous plaire, c'est sûr. Venez écouter du conte en live, c'est encore peut-être mieux qu'à la radio. Vous avez le son et l'image en spectacle, c'est mieux. Non, c'est bien aussi la radio, c'est bien. Bon, on va pas plus tarder que ça, et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir une histoire qui nous vient de Norvège, qui s'appelle La Colombe Blanche. Il était une fois deux fils d'un roi, qui étaient célèbres pour leur audace et leur témérité. Un jour, ils décidèrent de tenter une expédition à bord d'une petite barque, et sans vouloir écouter les conseils de leurs amis, ils s'embarquèrent dès le lever du soleil. Il faisait beau temps et un vent favorable les poussa très loin du rivage de leur pays. Vers le soir, une forte tempête éclata et leurs rames furent brisées. La petite barque semblait une coquille de noix sur le grand océan. Tantôt les vagues furieuses les lançaient vers le ciel, tantôt elles les entraînaient au fond de la mer. Et les deux princes ne pouvaient rien faire d'autre que de s'accrocher de toute leur force à la barque. Au plus fort de la tempête, ils virent apparaître une étrange embarcation qui ressemblait à un pétrin de boulanger. Une très vieille femme ramant de toutes ses forces s'approcha et, arrivée à leur hauteur, leur cria qu'elle pourrait les sauver. La tempête s'apaisa et la vieille leur proposa encore une fois de les sauver, mais à une condition. Ils devaient promettre de lui apporter leur petit frère qui allait naître prochainement.
« Mais nous ne pouvons pas te donner quelqu'un qui ne nous appartient pas, » répondirent les deux frères.
« Alors vous irez au fond de la mer, » dit la vieille, « mais réfléchissez. Ne croyez-vous pas que votre mère aimerait mieux vous garder qu'un enfant qu'elle ne connaît même pas encore ?» Et la vieille femme, en ramant de toutes ses forces, s'éloigna. Tandis que la tempête augmentait en violence, si bien que l'eau finit par submerger la barque sur le point de couler. Désespérés, les princes ne pensèrent plus qu'à sauver leur vie. Ils crièrent à la vieille de revenir et lui promirent ce qu'elle avait demandé, c'est-à-dire de lui remettre leur petit frère qui allait naître, si elle voulait bien les sauver. Aussitôt, la tempête s'apaisa, la mer se calma. Et la barque fut poussée par la brise dans la direction du château du roi, où les deux princes arrivèrent bientôt. Ils furent reçus par leur père avec joie et enthousiasme, car pendant la tempête, il avait craint, comme tout son entourage, que ses deux fils n'aient fait naufrage. Les deux frères, pourtant, ne racontèrent à personne ce qui leur était arrivé, et même quand leur petit frère naquit, ils se turent. Le petit frère était d'une grande intelligence et d'une grande beauté, et toute la cour l'aimait et l'admirait. Les années passèrent, et la vieille, qui n'était autre qu'une sorcière, ne donna pas signe de vie. Les frères aînés continuèrent à se taire. Un soir pourtant,
lorsque le dernier-né fut devenu un jeune homme, une horrible tempête se déchaîna. Une brume épaisse régna sur tout le pays, et en plein midi, il fit nuit. Au plus fort de la tempête, on entendit des coups frapper à la porte du château. Le jeune prince, qui se trouvait à côté du serviteur qui alla ouvrir la porte, vit en face de lui une vieille femme portant un pétrin de boulanger sur son dos. Elle le regarda et elle lui dit de la suivre, parce que ses frères avaient promis, pour sauver leur vie, de lui donner leur petit frère. « Si tu as sauvé la vie de mes frères, et s'ils t'ont promis qu'en échange je te suivrai, je ne puis que t'obéir, » répondit le prince. Et il suivit la sorcière. Ils descendirent ensemble vers la plage, et tous deux prirent place dans le pétrin. Ils traversèrent la mer jusqu'à la demeure de la sorcière, et le jeune prince fut désormais au service de la vieille. Le premier jour, elle lui demanda de compter et de ranger soigneusement toutes les plumes qui formaient plusieurs gros tas dans les coins du grenier. « Je te donne jusqu'à ce soir pour compter toutes ces plumes, sinon tu auras demain un travail encore beaucoup plus difficile à accomplir. » Et elle s'en alla. Le jeune prince compta et rangea des plumes pendant toute la journée, mais quand vint le soir, il se rendit compte qu'il lui était impossible de compter et ranger toutes les plumes avant le retour de la sorcière. La nuit commençait à tomber quand il entendit frapper contre la vitre. « Laisse-moi entrer, » dit une voix douce, « et je t'aiderai. » C'était une colombe blanche qui frappait avec son bec à la vitre. Il ouvrit la fenêtre, la colombe entra, et en moins d'une heure, elle avait compté et rangé toutes les plumes. Elle eut cependant le temps de disparaître juste avant l'arrivée de la sorcière. « Ah ! La sorcière s'écria, « je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi adroit !» Le lendemain matin, avant de s'en aller, la sorcière dit au prince « Aujourd'hui, je vais te donner un travail tout à fait facile. Tu vois ce tas de bois? Tu vas le fendre en tout petits morceaux, pas plus grand que mon petit doigt. Tu dois finir ce travail avant mon retour. » Le prince prit une petite hache et se mit aussitôt au travail. Il fendit du bois sans se reposer un seul instant, mais le jour passait. Et il lui sembla que le tas de bois était encore plus haut que lors du départ de la sorcière. La nuit allait tomber quand la colombe blanche fit son apparition. Elle se posa sur le tas de bois et roucoula. « Veux-tu que je t'aide ?»« Oh oui, avec plaisir !» répondit le prince. Aussitôt, la colombe blanche se mit au travail et fendit le bois avec son bec. Elle travailla avec tant d'ardeur que le prince avait à peine le temps de ranger les petits morceaux de bois. Bientôt, tout le bois fut débité en petits morceaux et la colombe se posa sur l'épaule du prince. Celui-ci caressa ses plumes blanches et l'embrassa sur son petit bec rouge. À peine avait-il touché de sa bouche le bec de la colombe que celle-ci disparut. Et à sa place, vous l'avez deviné, hein, il vit une jeune fille d'une grande beauté, comme dans tous les contes. Elle lui dit qu'elle avait été princesse et qu'une sorcière avait réussi à s'emparer d'elle comme elle s'était emparée de lui et qu'elle avait été métamorphosée en colombe. Grâce au baiser qu'il lui avait donné, le charme qui la retenait captive s'était rompu. Et s'il lui restait fidèle, s'il la prenait pour épouse, tous les deux pourraient recouvrer leur liberté. Ébloui par la beauté de la princesse, le prince accepta aussitôt de devenir son époux et promit de lui rester fidèle. Elle lui dit alors, « Dès que la sorcière rentrera, tu dois, puisque tu as si bien travaillé, lui demander de t'accorder une faveur. Si elle accepte, n'hésite pas à exiger qu'elle t'accorde la princesse métamorphosée en colombe. Mais il faut que tu entoures ma patte d'un fil rouge pour pouvoir me reconnaître, quelle que soit mon apparence. » Le prince fit ce qu'elle conseillait et la princesse redevint une colombe blanche. Quelques instants plus tard, la sorcière revint trouver le prince. Comme elle exprimait sa satisfaction de voir que tout le travail était terminé, le prince lui dit « Puisque vous êtes satisfaite de mon travail, je vous demanderai de m'accorder une faveur. Que désires-tu ? Je voudrais épouser la princesse qui fut métamorphosée en colombe blanche. » « Quelle drôle d'idée, s'écria la sorcière. Mais puisque tu veux une princesse, je vais t'en donner une. Et il appela un petit âne gris qui avait de très longues oreilles. Puisque tu veux une princesse, en voilà une. Le prince, se souvenant des paroles de la jeune fille, regarda le sabot de l'âne et vit qu'il était entouré d'un petit fil rouge. Alors il dit « J'accepte cette princesse pour fiancée. » Furieuse, la sorcière s'éloigna et revint accompagnée par une vieille femme sans dents, ridée comme une vieille pomme et dont les mains tremblaient. « Voilà aussi une princesse. Est-ce celle-là que tu veux ?»« Oui, c'est celle-là que je veux, » s'écria le prince, parce qu'il avait remarqué le petit fil rouge entouré autour du petit doigt de la vieille. Alors la colère de la sorcière ne connut plus de bornes. Tout ce qui lui tomba sous la main, elle le cassa. Mais puisque la sorcière l'avait promis, elle dut accepter le mariage du prince et de la colombe. La princesse, qui avait repris son apparence humaine, dit à son fiancé « Souvenez-vous de tout ce que je vais vous dire. Pendant le banquet qui suivra la célébration de notre mariage, vous pouvez manger tout ce que vous voudrez, mais vous ne devez pas boire. » Le prince, le jour de son mariage, oublia ce que lui avait dit la princesse. Pendant le banquet, il porta à ses lèvres une coupe de vin. La princesse le poussa du coude et le vin fut répandu sur la table. La sorcière, hors d'elle, cassa tout ce qui lui tomba sous la main. La princesse dit alors à son époux « Il n'est pas dans les pouvoirs de la sorcière d'empêcher notre union, mais dès demain matin, nous retomberons en son pouvoir si nous ne nous réussissons pas à fuir. Je vais mettre deux bûches dans notre lit. Elles répondront à notre place si la sorcière nous adresse la parole. Mais surtout, n'oubliez pas d'emporter le pot de fleurs et la cruche remplie d'eau qui se trouve sur le bord de la fenêtre. » Tous deux sautèrent par la fenêtre. La nuit était noire, mais la princesse connaissait très bien le pays qu'elle avait souvent survolé, et ils trouvèrent aisément leur chemin. Il était minuit quand la sorcière appela le prince et la princesse. Les deux bûches répondirent à la place des jeunes époux. À l'aube, elle appela de nouveau les jeunes gens, et les bûches répondirent encore une fois à leur place. Mais dès que le soleil se leva, la sorcière, qui était entrée dans la chambre nuptiale, ne trouva dans le lit que les deux bûches, et elle se lança aussitôt à la poursuite des jeunes mariés. La princesse, au lever du soleil, vit un nuage noir qui semblait les poursuivre. « Jette le pot de fleurs au-dessus de ta tête » cria-t-elle aussitôt. C'est ce qu'il fit, et au même instant, une haute et épaisse forêt jaillit de la terre devant le nuage. La sorcière fut obligée de s'arrêter et dut d'abord retourner chez elle pour chercher sa hache afin de pouvoir se frayer un chemin dans la forêt. Les jeunes époux continuèrent à marcher. La princesse, après plusieurs heures de marche, vit de nouveau le grand nuage noir qui semblait les poursuivre. Elle demanda alors au prince de lancer la cruche remplie d'eau par-dessus sa tête, ce qu'il fit. Au même instant, un grand lac apparut. La sorcière fut obligée de retourner chez elle pour chercher le pétrin de boulanger qui lui servait de barque. Ainsi, les fugitifs eurent le temps d'arriver au château du roi. Ils réussirent à pénétrer dans le château par une fenêtre ouverte. Au même instant, la sorcière fit son apparition. La princesse souffla de toutes ses forces et des centaines de colombes blanches s'envolèrent de sa bouche, se précipitèrent sur la sorcière et lui donnèrent tant de coups de bec qu'elle fut incapable de se sauver. Elle fut déchirée en mille petits morceaux. Au château, la joie fut grande en voyant apparaître celui qu'on croyait disparu à jamais, le jeune prince, accompagné par une jeune et charmante princesse. Ses deux frères se jetèrent à ses genoux et implorèrent son pardon. Ils lui demandèrent de régner seul sur tout le royaume et de bien vouloir les considérer comme ses plus fidèles sujets. On dit que le jeune prince accepta et qu'ils vécurent tous très heureux. C'est étonnant, non, ces femmes extraordinaires qui connaissent tout. Elle est transformée en colombe et elle a toutes les réponses. Elle sait qu'il faut prendre le pot de fleurs, la cruche. En fait, le héros, c'est elle. Le prince, il sert à rien dans cette histoire. D'abord, il est vendu par ses frères, enfin promis par ses frères, et en plus, il sait rien faire. Moi, j'adore cette histoire. Cette princesse, elle est extraordinaire. Pour continuer, on part maintenant en Alaska, là où vivent les peaux rouges. Il y avait une jeune fille qui était la plus belle de toute sa tribu. Nombreux étaient les jeunes guerriers qui lui faisaient des compliments, mais elle n'en écoutait qu'un seul, un jeune chef qu'elle aimait depuis longtemps. Leur mariage devait avoir lieu à la prochaine lune. Déjà, on préparait la fête, et les fiancés ne songeaient plus qu'aux longues années de bonheur et de joie qu'ils allaient vivre. Lorsque la veille du festin de noces, la jeune fille fut prise d'un soudain malaise, et elle mourut doucement à l'aube. Le jeune homme qui souhaitait l'épouser ne put se consoler, car le souvenir de la morte demeurait près de lui nuit et jour et nuit. Il abandonna son arc et ses flèches, et assis près de la tombe de sa bien-aimée, oubliant chasse et combat, rêva à son bonheur perdu, nuit et jour, jour et nuit. Enfin, après bien des nuits et des jours, il se souvint de ce que disaient les anciens de la tribu. Les anciens qui prétendaient qu'il existait un chemin conduisant au pays des âmes et qu'on pouvait le trouver si on le voulait de toutes ses forces. Le lendemain, à l'aube, il remplit sa besace de provisions, car il ne savait pas combien de jours il aurait à voyager, ni quel désert il traverserait. Il ne savait qu'une seule chose, s'il existait vraiment un chemin conduisant au pays des âmes, il le trouverait. Au moment de partir, il eut un instant d'hésitation, car il n'avait aucune raison d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Mais il se rappela que les anciens avaient parlé du sud. Le pays des âmes se trouvait au sud, croyaient les anciens. Alors, s'armant de courage et plein d'espoir, il se mit en route, armé de son arc et de ses flèches et suivi de son chien. Il marcha longtemps, longtemps, et le paysage était toujours le même que celui de son enfance. Les forêts, les collines, les rivières étaient semblables à celles de son pays natal. Il y avait seulement un peu moins de neige. Et après des jours et des jours de marche, la neige disparut complètement. Il continua à marcher, et l'herbe et les feuilles et les fleurs, comme il n'en avait jamais vu, s'épanouissaient autour de lui. Dans le ciel sans nuages, les oiseaux passaient en chantant. « Ah, c'est la bonne route !» pensait-il. L'espoir de revoir bientôt sa bien-aimée emplissait de joie son cœur. Il lui semblait avoir des ailes. Bientôt, il traversa une sombre forêt, puis escalada de hautes falaises. Et au sommet de la plus haute des falaises, il aperçut une cabane. Devant la porte se tenait un vieillard vêtu de peau de bête et appuyé sur une canne. S'adressant au voyageur, il lui dit « Je t'attendais, je sais ce qui t'amène. Lorsqu'elle est passée sur cette route, celle que tu cherches s'est reposée dans ma cabane. Repose-toi à ton tour ainsi qu'elle l'a fait et je te dirai ce que tu veux savoir. » En entendant ces mots, le jeune homme ne put contenir son impatience et demanda au vieillard de lui indiquer immédiatement le chemin qu'il devait suivre. Le vieillard étendit le bras dans la direction du sud et lui dit « Peux-tu voir cette vaste étendue d'eau là-bas et ces plaines immenses vertes et bleues ? C'est le pays des âmes, mais aucun mortel ne peut y pénétrer sans être obligé de laisser son corps en gage. Si tu veux pénétrer dans le pays des âmes, abandonne ton corps, ton arc, tes flèches et ton chien. Je les garderai pendant ton absence. » Le jeune homme obéit aussitôt et se sentit léger comme l'air, frôlant à peine le sol. Au fur et à mesure qu'il avançait vers les plaines immenses du pays des âmes, le parfum des fleurs et les chants des oiseaux devenaient plus doux, plus merveilleux, tandis que les bêtes sauvages venaient se frotter contre lui au lieu de fuir à son approche. Une brume rose l'entourait. La brise se faisait plus douce. Un grand silence régnait sur toute la terre. Bientôt, il s'aperçut que les arbres s'éloignaient, et il lui semblait traverser les rochers et les collines sans les toucher, car en vérité ce n'étaient pas des arbres, ni des rochers, ni des collines, mais seulement leurs souvenirs. Il se sentait heureux et fier, et il comprit qu'il était enfin arrivé au pays des âmes. Il poursuivit sa route, toujours plus léger, toujours plus rapide, toujours plus heureux et fier, jusqu'à ce qu'il ait atteint les bords du grand lac au milieu duquel il y avait une grande île verte et bleue. Sur le rivage du lac, il trouva un canoë de pierre et une pagaie. Le jeune chef sauta aussitôt dans le canoë et d'un coup de pagaie s'éloigna en direction de l'île. C'est alors qu'il aperçut, assis sur le rivage, la jeune fille qu'il avait tant désiré revoir. Et dès qu'elle le vit, elle sauta dans un canoë semblable au sien. Il voulut la rejoindre, mais malheureusement il ne put y parvenir, car entre les deux esquifs d'énormes vagues s'élevèrent tout à coup. Les deux fiancés furent saisis de terreur à la vue des ossements humains qui gisaient au fond du lac. C'étaient les restes de ceux qui étaient morts avant eux et qui n'avaient pas pu atteindre l'île. Mais malgré leur frayeur, il ne leur arriva aucun malheur, car leur vie était sans tache et le maître de la vie avait décidé de les accueillir. Ainsi, ils débarquèrent sur l'île et se promenèrent en se tenant par la main à travers des champs émaillés de fleurs, le long des ruisseaux d'eau claire, ne redoutant ni la soif, ni la faim, ni le froid, ni la chaleur. Ils vécurent de l'air et du soleil, oubliant les morts, car il n'y avait pas de tombe sur l'île. Le jeune chef ne pensait plus ni à la guerre ni à la chasse. Tous deux se seraient volontiers demeurés là ensemble, heureux pour l'éternité. Cependant, le jeune chef entendit le doux murmure du vent et reconnut la voix du maître de la vie qui lui disait « Il faut que tu retournes d'où tu viens, car j'ai beaucoup de travail pour toi. Ta tribu te réclame et tu dois la conseiller pendant de nombreuses années encore. Mon messager t'attend. Il te conduira jusqu'à la cabane du vieillard où tu reprendras ton corps, ton arc, tes flèches et ton chien. Il te dira ce que tu dois faire pour retrouver le chemin de ton pays. Écoute-le et prends patience. Les années passeront. Sois patient et calme. Quand le temps sera venu, tu viendras rejoindre celle que je te demande de quitter aujourd'hui car elle est sous ma protection. Elle conservera éternellement sa jeunesse et sa beauté. » Le jeune chef obéit. Il était triste parce qu'il lui était ordonné de quitter celle qu'il aimait pour conseiller sa tribu. Il obéit et reprit la route du monde. Il retrouva le vent, la neige, le froid et les hommes. Il lui fallut aussi conduire ses frères et chasser avec eux et faire la guerre avec eux. Mais quand le temps fut venu, il reprit le chemin du pays des âmes pour y retrouver celle qu'il n'avait jamais oubliée. Et le maître de la vie lui souhaita la bienvenue dans le pays des âmes. Sa bien-aimée l'attendait sur le rivage de l'île verte et bleue. What a wonderful world. Sylvain, tu choisis toujours les virgules avec un à-propos étonnant. Il est déjà temps de se quitter, mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve tous les mercredis et tous les samedis à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, je sais pas moi, racontez-vous des histoires.